Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 161. Mon nom est Paul Andréau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc Rémi, t'es toujours vivant?
Oui, j'ai survécu à Fantasia.
Tu es ben oui. Celui qui regarde en avant.
Ah, je suis fini à 34 projections.
Et Chris.
Sans compter les enfants que j'ai... Tu sais, j'ai présenté les courts-métrages, mais je restais pas. Mais tu sais, il a quand même fallu que je sois sur place. Là.
Sans compter que tu travailles à temps plein aussi. Puis,
sans travailler que c'est n'importe quoi. Là, mais ouais, j'avais un tournage en plus pendant Fantasia. Je tournais un court-métrage avec Babel. Là, c'est un projet qui s'appelle Je me souviens, qui est comme un projet de court-métrage sur l'histoire du Québec. Qui est backé par un organisme, en fait, qui est comme des commémorations. Moi, je faisais un court-métrage sur la Charte de la langue française, donc en 77, qui est commémoré le 40e cette année. Je faisais ça à travers Fantasia pendant que je travaillais full time puis pendant que j'ai réussi à avoir 34 films là. Bon. Fait que c'est quand même pas pire là. Là, je suis comme quand même content de retomber un peu sur mes pattes là. Parce que ça devient intense.
À quoi on peut s'attendre là, comme compte rendu là, de ces 34 films-là? C'était quoi la conclusion? Est-ce que t'allais faire un petit journal de bord là, comme tu faisais un peu les autres années? Je pense que t'en faisais un. Encore plus rapide, hein?
Ouais, c'est ça, il va être plus rapide cette année. Là, je suis tellement dans le jus encore là, que, tu sais, c'est comme... je pourrais pas l'écrire 150 mots par film. Là, d'habitude, je me donnais ça, mais je vais essayer de faire un compte-rendu, là, genre une ligne ou deux par... un genre de party mix de review, là, où je fais une ligne par film. Là. Fait que je m'engage à le faire, mais ça va sûrement être en ligne plus dans une semaine et demie, là... Ça va être un post-post Fantasia, là.
Ben ouais, ben non, c'est correct. Puis là, de toute façon, on en parle, là, on débrief, là, de toute façon. T'en ressors avec, la dernière fois, t'avais parlé de... c'est ça, la première moitié du festival. Excuse, on dirait pas, j'ai comme pris le contrôle de la... des transitions ben, et du podcast.
Je suis en vacances cette semaine, là.
Ben non, c'est correct, là. Mais, fait que t'en ressors-tu avec d'autres coups de cœur, mon ami?
Fantasia, j'avais mis... c'est quoi j'avais parlé? J'avais parlé de Brixby Bear, j'avais parlé de...
Ouais. Low Life.
Low Life, qui était
un Low Life, ouais. Game of Death.
Ouais.
Ben, tu sais, entre-temps, là, j'ai vu Good Time, là, qui était vraiment un des musts du festival. Ça a créé un gros buzz à Cannes, puis c'est le fameux film où Robert Pattinson joue une espèce de criminel, drug dealer, tout croche, là. Il a comme les cheveux bleachés, puis il fait vraiment dur. En tout cas, il était fantasieux. C'était malade, en plus, c'est l'événement dans Robert Pattinson, parce que c'est tellement pas un film qui est connexe à Twilight, mais t'avais genre quand même la crowd... de filles qui trippent sur Twilight qui se pointent pour voir Robert Pattinson. Là. Je pense qu'ils ont fait un esti de choc en voyant le film. Là, parce que c'est trash, c'est cru. Là. C'est les frères Safdie. qui sont comme de plus en plus en vogue là, dans le cinéma indie. Là, puis ils ont vraiment un processus super intéressant. Il y a un des deux, entre autres, qui joue dans le film. Puis c'est ça, en fait, c'est deux criminels un peu pathétiques qui font un... C'est deux frères criminels un peu pathétiques qui font un vol de banque qui tourne mal. Puis le frère qui est un handicapé mental, ben il se fait prendre par la police. Puis dans le fond, son grand frère, Robert Pattinson, il essaie de le sortir de prison par tous les moyens possibles. Mais c'est tellement bien fait, là. C'est tellement réel comme ambiance. Tu sais, jouer avec la pauvreté, le profilage racial, mais tout fait aussi dans une... C'est quand même divertissant, tu sais, ça reste que c'est des sujets lourds, mais qui sont exploités d'une bonne façon, où t'es toujours dans un thrill. C'est une poursuite, dans le fond, il fuit la police pendant qu'il essaie de courir après une solution. Fait que c'est non-stop, ce film-là, mais en même temps, t'as des thématiques assez fortes en arrière du film. Puis il parlait après ça dans le Q&A que la plupart des rôles, en fait, ils ont vraiment pris du vrai monde pour les jouer. Genre, il y a une scène avec un agent de sécurité, puis c'est un vrai agent de sécurité, puis c'est comme... C'est là, tu sais, ça se sent dans le film, là. Robert Pattinson, en plus, il blême dans le film. C'est un peu... Il y a un peu un feeling d'American Honey à travers ça, de... Tu sais, tout le casting est comme ultra réaliste, mais t'avais Shia LaBeouf qui est comme... c'est-tu que je rush? Je bégaye à chaque fois que je dis son nom à lui, là.
Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf. Ben, tu sais, qui était là, mais qui était... Il faisait partie de la crew, là, mais là, c'est les Robert Pattinson puis un des deux frères qui joue dedans, ils se blendent complètement dans ces personnages-là qui sont complètement réalistes mais éclatés. Là. C'est vraiment des castings de fou.
Il y a Jennifer Jason Leigh aussi dans le film, hein, si je me trompe pas.
Ouais, mais sérieux, là, sur le poster, elle est là, genre, 5 minutes, là.
Ah, sérieusement?
C'était vraiment... Ouais, c'est un truc promotionnel, là, c'est sûr, là, mais c'est comme... Elle est vraiment pas là, là, dans le film.
Ah,
ok. Ouais, tout, quand elle a popé, elle a une super bonne scène, en fait, mais c'est comme... Elle est vraiment pas là, là, tu sais. Bon. C'est vraiment pas à propos d'elle, le film, là. Il y a beaucoup de personnages, en fait, parce que c'est... T'es comme en... dans une chasse à l'homme, fait que t'es tout le temps avec Robert Pattinson, mais il y a tout le temps des nouveaux personnages qui s'intègrent puis qui repartent, puis t'as tout le temps le côté de nouveauté là qui s'enchaîne dans le film là. Mais c'est ça, moi c'est pas mal le meilleur film que j'ai vu à travers le festival cette année là.
Ah ouais, carrément, hein?
ça puis Brigsby Bear, c'est mes deux tops là. Ben t'sais, en même temps, c'est un peu poche parce que c'est comme les deux films qui sont peut-être un peu plus commercialisés autour là. Ouais.
Parce qu'en même temps, c'est bien parce qu'ils prennent l'affiche, fait que ceux qui nous écoutent,
fait que les gens
pouvoir,
peuvent les rattraper. Ouais, c'est ça. Ben en même temps, je dis ça, mais tu sais, Valérian, il est vraiment dans le bottom de ma liste là, fait que tu sais, c'est comme c'est sûr que ça veut pas rien dire, mais ces deux films là sont vraiment spectaculaires là. Mm-hmm. C'est ça, puis dans, tu sais, Low Life, il reste pas mal haut dans mon top. Aussi, au niveau du rattrapage, c'est toujours trippant là, de voir des vieux films. Là. La dernière fois, j'avais parlé de Man Who Laughs.
Ouais.
Cette fois-ci, là, j'ai vu The Crazies de Romero, que j'avais jamais vu. Puis j'ai vu beaucoup de films de Romero, là, même une couple d'affaires assez obscures, mais j'avais toujours manqué The Crazies. C'est un film qui a beaucoup vieilli. Là. C'est vraiment, il faut que tu le remettes en contexte avec l'époque. Ça a été tourné pendant la guerre du Vietnam. Fait qu'il y a tout le côté panique. Là. C'est comme, ça s'apparente beaucoup au genre zombie, mais c'est pas des zombies. Là. C'est un virus. Hein. Puis les gens deviennent complètement fous. Là. T'sais, autant ils vont se mettre à tout casser qu'ils vont se mettre à genre délirer. Puis ils ont de l'air sur la grosse drogue. T'sais.
Puis, ouais. Puis tu sais, Romero, souvent, il explique aucunement la provenance de ces zombies. Puis dans The Crazy, c'est un film de virus ou quelque chose comme. Là.
Ouais, mais il y a un contexte. Là. C'est genre un truc militaire là, qui a mal viré. Puis, mais tu sais, c'était bien intéressant, mais ça a vieilli. C'est le genre de film que tu checkes puis tu fais, je comprends qu'il ait fait un remake. J'ai jamais vu le remake, là. Fait que je sais pas c'est quoi la qualité du remake. Mais tu sais, je comprends, vu que le film, il a vraiment pris de l'âge. Le film, je le mets pas de côté du tout parce qu'il a vraiment sa valeur comme telle. C'est une bulle historique très importante. Mais tu sais, c'est ça, là. Ça a vieilli autant au niveau des dialogues, la mise en scène est très, c'est très, très low budget. Fait que ça paraît, tu sais. Un film à gros budget des années 70, ça se pardonne un peu plus, là. Je pense que c'est début 70, là. Mais tu sais, c'est comme son quatrième long métrage. Il a fait Night of the Living Dead, il en a fait deux trucs entre temps, puis il a fait The Crazy.
Mais je me demande, cette projection-là, Rémi, l'ambiance devait quand même être assez. Les gens sont encore un peu endeuillés, qui viennent nous quitter. C'est d'ailleurs pour ça que le film a joué, il n'était pas prévu à la base au festival.
Puis en fait, pourquoi je l'accroche, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment trippant. Là. J'ai fait la connaissance de la compagnie Arrow, qui est la compagnie British. Je connaissais un peu de monde, mais là, cette année, il y avait un stand à Fantasia. Où ils vendaient des Blu-ray genre édition spéciale, puis sérieux, j'en achète quasiment plus là, des DVD là, j'en ai pour ceux qui me connaissent, j'en ai à tonnes chez nous, mais j'ai pas pu m'empêcher là, c'était juste trop malade ce qu'ils font là. C'était vraiment des vieux films obscurs qui restaurent en Blu-ray. Ils font des éditions spéciales vraiment trippantes. Puis la projection de The Crazy, c'était Arrow qui avait restauré. Fantasia, ils ont comme réagi à la mort de Romero, ils ont contacté Arrow puis ils ont demandé un DCP qui a été produit en genre, je pense qu'elle me disait la fille, c'était comme 3 ou 4 jours que le DCP a été produit pour avoir genre une projection, même que le titre au début, c'était même pas le bon titre, c'était le titre original de The Crazy. Je sais même plus c'est quoi là, c'est genre le code du virus là. Fait que dans le fond, ils ont comme eu en express cette copie-là. Fait que c'était comme une espèce de projection inédite, hors de nulle part. C'était vraiment cool de découvrir ça. Puis, tu sais, Arrow, souvent, il envoie des représentants marketing pour faire la promotion de ces copies-là ou de leurs DVD. Puis là, c'était les techs qui étaient sur place, en fait. Fait que, tu sais, ceux qui vendaient les DVD au stand, puis ceux qui étaient dans la salle pour présenter le film, c'était les techniciens de Arrow qui ont tout expliqué le processus de restauration. Ils ont expliqué aussi c'est qui les artistes qui ont fait les box art des DVD. C'était vraiment trippant, en fait, comme expérience d'avoir cette vision-là qui est habituellement, tu sais, tu t'en vas plus vers du monde de l'équipe, mais là, t'es avec les restaurateurs du film. Puis, je bifurque vers un autre film aussi qui est vraiment important, en fait, pour moi, puis qui a été présenté durant Fantasia, puis c'est Simon les nuages. J'en avais parlé un peu. C'est vraiment un autre extrême, là. C'est un film pour...
Dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est Terminator 2 ou est-ce que c'est Suspiria, tu sais?
Ouais, c'est ça. Mais en fait, je les ai manqués les deux à cause de ben d'autres circonstances. Je les ai manqués, mais Simon les nuages, c'était super important parce que Simon Lignoche n'a jamais été distribué en DVD. Il n'y a jamais eu de copie numérique. Et les fans n'ont pas encore mis la main dessus. Donc, la seule copie possible de trouver de Simon Lignoche, c'est un 4-3 en VHS. Fait que c'est la seule copie existante. Puis, en fait, Marc Lamotte, il a encore fait son travail de maître. Puis, il a trouvé une copie 35 mm entreposée, qui est genre une safety. C'est une copie genre faite pour les archives, là, dans le fond. Puis, ça serait la copie qu'il voudrait utiliser pour faire la restauration un de ses jours. Mais c'était une copie 35 que j'ai jamais joué, qui était projetée à la Cinémathèque. Moi, c'est un film... Tu sais, pour l'anecdote, là, on va rentrer dans nos vies personnelles, là, mais ma grand-mère, quand j'étais petit, elle m'avait enregistré des films sur des cassettes VHS à la télé, tu sais, en skippant les annonces. Là. Mm-hmm. Fait que j'avais comme 3-4 VHS avec 4 films sur chacune. Puis, il y avait une de ces VHS-là qui commençait par Simon les nuages. Fait que quand j'allais chez ma grand-mère, Simon les nuages, là, je l'ai jeté, ça partait la cassette. Fait que je l'ai joué là, encore et encore, mais ça devait faire comme 12 ans que j'avais pas vu le film. Ça faisait vraiment longtemps, mais tu sais, le film est parti, puis c'était comme du François Pérusse, là. Tu sais, c'était comme ancré dans mes veines.
Les réflexes reviennent tout de suite, là. Wow,
c'est malade parce que ça fait 12 ans à peu près, tu sais, peut-être même plus, là. Puis le film, c'est ça, là, je le regardais, puis là, je pouvais caler les shots avant, même si c'était pendant que je le voyais, je faisais « Ah oui, c'est vrai, c'est ça qui va se passer », puis « Ah, ça va être cool », tu sais, puis mais c'était vraiment une belle expérience, puis... Pour vrai, le film a tellement bien vieilli, là. C'est sûr que t'as tout le côté 90s, mais le côté 90s rajoute beaucoup au film, là. C'est vraiment, tu sais, tout le côté vestimentaire, le langage des jeunes. Mais le casting est excellent. C'est vraiment un beau film d'aventure pour les jeunes avec, c'est vraiment le genre de jeu que les enfants jouent. Moi, je me souviens qu'on faisait ça, tu sais. C'est une gang de jeunes qui veulent partir dans la forêt. Ils veulent fuir le petit village, Sainte-Lucie-de-Bagotte. Pour s'en aller dans la forêt et trouver une espèce de pays pas enchanté, là, mais une espèce de monde parallèle que le jeune Simon a imaginé dans ses rêves. Fait qu'il l'a vu dans ses rêves, il est sûr que le monde existe, puis là, il ramasse tous les jeunes du quartier, puis ils font « on va aller trouver ce pays-là, ce pays caché-là ». Fait qu'ils partent à l'aventure, puis une des règles, c'est qu'il faut pas qu'ils se fassent repérer par les adultes, parce que sinon, tout s'arrête, toute l'aventure s'arrête. Fait que là, c'est comme eux qui essayent à plusieurs reprises de se rendre à ce pays-là, en suivant un petit chemin là, secret, puis il y a Edgar Fruitier qui a un rôle dedans, il y a Kim Yaroshevska, c'est ça, Yaroshevska qui jouait Fanfreluche, là? Hey, Yaroshevskaya, je pense que...
Tes références mènent sont hors de contrôle.
Ah, sont hors de contrôle. Mais il y avait Jessica Barker aussi.
Et Jessica Barker, c'est ça, pré-intrépide, là. Je pense que c'est un petit premier rôle au cinéma.
Ouais, c'est ça, puis pré-Mathusalem. Elle jouait dans Mathusalem? Attends, jouais-tu dans Mathusalem, non, elle?
Ah, je m'en souviens pas exactement.
Parce que c'est ça, Simon les nuages, moi j'ai jamais vu, mais c'est le même réalisateur que Mathusalem.
C'est Roger Quentin qui a aussi coécrit La Guerre des Tucs, qui a fait L'Assassin jouait du trombone, la Vengeance de la femme en noir. Okay. Tu sais, c'est vraiment une beast là, au niveau des films jeunesse au Québec. Là. Il a vraiment fait sa marque. Puis en fait, il nous a expliqué après aussi que tu sais, il y a comme une ouverture à Mathusalem à la fin du. En fait, pendant tout le film, il y a comme une espèce de mystère qui plane. Puis lui, pendant le tournage, c'était juste un mystère qui planait. Puis il voulait juste que ça soit des trucs non expliqués dans le film. Mais pendant le tournage, les enfants, ils demandaient le soir, « Hey, mais là, c'est quoi qu'il y a vraiment là-dedans? » Puis là, Roger Quentin, il partait dans du storytelling, tu sais, il racontait des histoires de feu de camp aux enfants. Puis, tu sais, l'histoire s'est comme construite, puis c'est devenu Mathusalem. Mais ça a été à travers le tournage qu'il racontait, il inventait des affaires, il racontait des histoires comme des histoires vraiment de feu de camp, des histoires de dodo, là. Puis l'histoire s'est comme créée sur le set de Simon les nuages. Puis après, il a fait comme, j'ai comme pas le choix de faire mon film de pirate, là. C'est comme, je l'ai tellement hypé avec les jeunes qu'on va le faire. Fait que c'est comme, mais je pense qu'il y a des jeunes qui reviennent dans Mathusalem, mais c'est pas toutes les mêmes jeunes. Mais bref, c'est ça, là, c'est un peu dans la même vibe, mais faudrait que je revoie Mathusalem, mais moi, Simon les nuages m'a tellement plus marqué quand j'étais jeune que c'est peut-être celui-là mon préféré, là, peut-être avec une valeur nostalgique, mais c'est vraiment nice, là. C'est un peu des Goonies québécois, là, il y a un fucking dinosaure, là, juste le dire, mais il y a un fucking dinosaure avant Jurassic Park, là. En stop motion, là, genre Larry Harryhausen, là, avant Jurassic Park, là, fait que boom. Roger Quentin est plus grand que Steven Spielberg, I guess.
Ouais, peut-être. C'est ça, tu viens de le dire, ça y est. Bon. Rock on.
Ça y est. Sinon, moi, j'aimerais ça vous parler un peu de la section Caméra Lucida, les gars, parce que... J'avais vœu de silence étant sur le jury.
Ah, j'en ai pas vu beaucoup, en plus, de cette section-là.
Oui, c'est ça. Ben, une très belle section. C'était 10 films par Ariel Esteban Caillé, qui est programmateur depuis quelques années à Fantasia, notamment. Et c'est ça, vraiment, en fait, nous, on a donné le prix, donc, à A Ghost Story, de David Lowery.
Ouais. Qui est sorti en salle, là.
C'est ça, qui vient de sortir en salle. Et puis, honnêtement, je vous le recommande tout à fait. Mais il faut vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Hein, parce que, comme je vous l'expliquais un peu en message privé, là, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui va vraiment pas rester à l'affiche longtemps. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le titre puis le marketing, ça pourrait peut-être induire des gens pas trop attentifs en erreur et penser qu'ils s'en vont voir un film d'horreur. Alors que c'est vraiment plus... Un drame, une fable mélancolique sur le deuil.
Ouais, c'est ça.
On est presque dans le conte pour enfants. Là, on est presque, moi, j'avais pratiquement l'impression de regarder un livre pour enfants où tu tournes les pages, il y a une phrase par page. Là, parce que la structure du film, elle est très, très simple. Il y a vraiment très peu de dialogue, sauf à certains moments clés. Donc, puis c'est un film très court de comme 1h25. Puis tu sais, c'est tourné en pellicule, il y a la petite musique là, indépendante, très mignonne, tout le long du film. C'est Casey Affleck et Rooney Mara qui jouent un couple. Puis très, tu sais, dans le fond, après les premières 10 minutes, il y a un accident, Casey Affleck meurt et revient sous la forme d'un fantôme, mais c'est vraiment, tu sais, pratiquement, là, c'est un acteur qui porte un drap sur soi, tu sais, avec deux trous noirs pour les yeux.
Et apparemment que c'était complexe, hein. Dans ça a l'air super simple comme idée, mais apparemment qu'il y avait des défis de mise en scène, puis des trucs et astuces là, pour que ça fonctionne. En tout cas, bref, excuse.
Non, c'est ça, parce que sous une apparente simplicité, il y a quand même toute une réflexion assez riche sur le temps, sur l'espace. Mais je ne veux pas trop vous en dévoiler, parce que c'est vraiment un film qui se découvre, en fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'il utilise ça. Il utilise vraiment beaucoup les outils du cinéma, les codes du cinéma, notamment le montage, pour faire des scènes vraiment éloquentes. Tu sais, il y a des chants contre chants que c'est à peu près du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant comme film. Mais c'est ça, il n'y a presque pas de dialogue, c'est super contemplatif. Oui, il y a une scène de genre 5 minutes où Rooney Mara mange une tarte sans interruption, là. Ben en fait, c'est deux plans, techniquement.
Je pense que c'est assez... ça a marqué beaucoup d'esprit, là. Voilà, quelqu'un, dans le bar Fantasia, puis il y a quelqu'un qui me dit, il y a une scène de tarte qui finit plus, là. J'étais comme...
Ouais, c'est ça.
Okay, ça je pense que c'est comme... Ça passe ou ça casse, là, avec...
Ouais, exactement. Puis ça me faisait beaucoup penser, en fait, puis c'est vraiment un film, on va faire beaucoup de parallèles avec Personal Chopper, de Olivia Sayas, Chopper.
Personal Chopper!
j'ai prononcé un peu... non, c'est ça. Personal Chopper. Donc, de Olivia Sayas, un autre film justement sur la vie après la mort, le fantôme, le deuil, tout ça, avec quelques éléments fantastiques, mais que c'est beaucoup plus, dans le fond, un film d'auteur qui utilise l'au-delà et des effets spéciaux vraiment un peu à l'ancienne. Et dans le film d'Assayas, on en parlait plus tôt dans un précédent podcast, de la fameuse scène de texto qui dure comme 20 minutes. La scène de tarte, c'est quand même beaucoup moins long, mais en même temps, c'est beaucoup plus statique. T'sais, la scène de texto, c'est pas juste une personne dans une pièce qui texte. Il y a comme beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges. Mais c'est vrai que pendant comme une vingtaine de minutes dans le film d'Assayas, il y a des textos qui s'échangent, c'est à peu près tout. Là, effectivement, il y a une scène de tarte, mais c'est ça. Je pense que si on est déjà embarqué dans le film, ben c'est juste un élément de plus parce que, oui, cette scène-là, elle va marquer les esprits, mais tout le film est sous ce mode-là, en fait. C'est très, très contemplatif. Tu sais, c'est l'espèce de... C'est dans le fond son mari décédé qui n'est pas capable vraiment de quitter sa femme, de faire le deuil, puis de passer à autre chose, puis dans le fond de s'élever au paradis ou peu importe comment on veut l'interpréter selon nos croyances ou tout simplement ce qu'on veut lire dans le film. Donc, un film tout simple sous forme de fable, très, très beau aussi. Tu sais, c'est vraiment un film qui s'écoute en cinéma. Il y a une espèce de format aussi 4-3 avec les coins ronds un peu
vignette, style là, vignette. Jarja l'avait fait un peu.
Ouais, c'est ça, exactement.
Si,
ça
fait penser à ça. Il y a tout de suite quelque chose d'un peu souvenir. Je sais pas, ça évoque déjà quelque chose de... Un rêve ou une diapo, quelque chose comme ça, là. Comme un poids du temps, oui, artificiel dans un sens, mais qui fait quand même son effet.
Ouais, puis il y a tout le petit côté, c'est un peu artisanal, un peu, tu sais, on sent, parce qu'en plus, lui, il sortait d'un gros film de Disney, Pete et le Dragon.
Pete Dragon, ben c'est ça, il y a vraiment une carrière étrange, genre David Lowery, là, puis c'est drôle que tu parles un peu du film pour enfants, peut-être, justement, parce que tout de suite, on a Pete Dragon qui vient en tête,
mais en même temps, bon, en plus, fait... hein?
Ben, apparemment, je l'ai pas vu.
J'ai entendu des super bons trucs sur ce film-là.
Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est ça. Puis lui, David Lowery, avant, il avait comme fait son genre de thriller western noir un peu, là, avec justement Rooney Mara et Casey Affleck, là, In Embodied Saints, que je me rappelle avoir trouvé très beau, un bel objet, mais qui m'a pas du tout marqué. Là, je pourrais être incapable de raconter l'histoire, mais juste, il y a vraiment, d'un film à l'autre, là, c'est super éclectique, on dirait, là, comme... C'est à tout le moins, ça rend sa filmographie ou ça rend lui comme auteur très curieux là, et intéressant, peut-être.
Donc, non, c'est ça. Donc, je le recommande tout à fait. Et puis, c'est ça. Moi, je pense qu'il restera pas à l'affiche longtemps parce que j'ai l'impression que bien les gens, ils vont se plaindre ou ils iront juste pas le voir, en fait. Il y a quand même beaucoup de gros films à l'affiche en ce moment. Donc, j'ai l'impression qu'un film comme A Ghost Story, c'est super là, que ça sort. Là. Mais, tu sais, j'ai pas l'impression qu'il y a un grand potentiel commercial. Et sinon, vraiment, je pourrais nommer les 10 films dans la section caméra Lucida.
Je veux juste rebondir une affaire, juste ce que tu as dit, parce que c'est ça, moi, j'étais censé le voir hier pour la petite histoire. J'étais allé au CLAP, j'étais à Québec encore en fin de semaine, c'était le 60e de ma mère. Tiens, parlons des choses personnelles. Ben oui. Félicitations à ma mère. Mais puis j'étais allé au CLAP hier, puis il était sold out. J'étais arrivé en plus, j'étais pas en retard, là, j'étais comme 15 minutes d'avance. Puis sold out.
Ça, c'est
hier,
vraiment après-midi.
C'est vraiment étonnant. Moi, j'étais comme, pour vrai, on est allé voir Dunkirk au CLAP, j'étais arrivé 10 minutes d'avance, la journée qui est sortie, puis il y avait encore de la place. Tu sais, jamais je me serais attendu à ça. Fait que finalement, j'étais allé voir un autre film que je vais parler plus tard dans le podcast, mais ça a été une magnifique découverte. Fait que bref, j'en reparle plus tard. Mais ouais, tout ça pour dire qu'il y a peut-être, effectivement, il y a peut-être un poids, un impact fort, mais est-ce que le bouche-à-oreille va suivre, tu sais? Ouais, on verra.
En même temps, j'y souhaite un succès commercial.
Ben oui, c'est ça.
Du tout après dire qu'il n'y a pas de chance. Mais c'est un film quand même assez difficile d'approche. Mais c'est ça. Sinon, pour le reste, la section caméra Lucida, je vous recommande d'aller voir vraiment sur le site web de Fantasia, d'aller voir c'était quoi les films de la section, parce que c'est une très forte section. Il n'y a pas vraiment eu de film... Les 10 films, ils ont des qualités, puis c'est sûr que j'en ai que j'ai préféré que d'autres. Le seul autre que je vais mentionner rapidement, en fait, c'est November. Surtout que ça, c'est un film qu'on risque peut-être de pas vraiment voir dans les circuits, dans les salles, donc ça dirait que c'est difficile. Mais si jamais, éventuellement, ça pop sur Mubi, ou bien s'il y a un Blu-ray qui existe, c'est un film donc de l'Estonie en noir et blanc. C'est là qu'il y a un élément un peu de culture peut-être qui manque, parce que ça a l'air d'être un truc folklorique, un peu comme basé sur des légendes nationales, mais en même temps, j'ai pas vraiment le bagage culturel pour le prouver. Pour le confirmer, donc c'est peut-être aussi purement de l'invention de la part du scénariste et réalisateur qui est Rainer Sarnett. Et en gros, c'est dur à décrire comme film. C'est une espèce de film avec beaucoup, beaucoup de personnages qui se passe, on pense, dans un temps médiéval, mais encore là, c'est pas sûr. Les gens sont pauvres, les gens sont sales. Ariel le compare un peu à Hard to be a God, mais c'est quelque chose de beaucoup moins rigoureux dans son approche esthétique. Et il y a beaucoup d'humour, en fait, dans le film. Il y a notamment l'acteur allemand qui jouait dans Human Centipede, là, qui joue un rôle, une espèce de bourgeois habillé en collant blanc, ça, très drôle. Puis la trouvaille du film, en fait, juste un élément, là, parce que je ne vous en parlerai pas longuement, mais il y a des espèces d'esprits qu'on appelle les crates. Et en fait, ça, c'est les villageois, en fait, qui donnent une âme à un amas d'objets qu'ils ont chez eux. Donc, les crates peuvent prendre toutes sortes de formes. Et il y en a un, justement, au début du film. La séquence d'ouverture du film, elle est incroyable. C'est un crate qui se promène, puis en gros, c'est comme un fossile avec un râteau, puis genre d'autres outils métalliques, et comme un manche à balai, qui sont toutes comme assemblés ensemble, qui forment une espèce de créature. Évidemment, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a de l'animation, tu sais, là, t'as l'impression que tu lui donnes une valeur de personnage. Mais dans les faits, c'est des outils qui se déplacent. Puis ils ont l'air un peu comme menaçants, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent de l'ouvrage. Ils veulent absolument travailler. Fait que des fois, ils vont même menacer leur maître, entre guillemets, ceux qui leur ont donné la vie, pour avoir de l'ouvrage, quitte à les tuer, puis à essayer d'aller voir un autre villageois pour avoir du travail. Donc, il y a quelque chose de très mystique dans le film. Il y a toutes sortes de petites histoires secondaires. C'est vraiment dur à lire comme film. En fait, c'est vraiment comme t'as l'impression de rentrer dans un rêve. Un rêve médiéval en noir et blanc estonien. Donc, si jamais ça vous donne envie, moi, je vous recommande tout à fait. Ça risque d'être dur à trouver, par contre.
Sais-tu nommer les tags sur IMDb, là, les catégories de films, là?
Hey,
rêve médiéval estonien.
Ben, c'est peut-être ça. Honnêtement, j'ai pas été vérifié, mais c'est tellement dur à décrire comme film. Mais ça vaut vraiment la peine. Tu sais, si vous aimez un peu... Le film m'évoquait un petit peu Andrei Rublev pendant le visionnement, notamment parce qu'il y a certaines séquences. Au début, il est en ballon, là, puis c'est un peu plus fantaisiste. Mon collègue sur le jury parle un peu de 8,5. Donc, tu sais, quand même des référents solides, là, des gros morceaux.
Pas
nécessairement que le film est à ce niveau-là, mais c'est un peu le même type d'ambiance. Donc, ça, c'était comme mon autre gros coup de cœur de la section et du festival. Sinon, Rémi, un film qui est à caméra lucida que je sais que tu as vu.
Oui.
Et je sais que tu as apprécié pas mal plus que moi.
Oui, vraiment.
C'était le film de clôture de la section, et puis c'est un des derniers films qui jouait à Fantasia. Le problème d'infiltration de Robert Morin.
Oui.
Son nouveau film qui met en vedette Christian Bégin dans le rôle principal. C'est un chirurgien qui se fait... Il se fait comme poursuivre rapidement dans le film parce qu'il y a un patient que... dans le fond, c'est un grand brûlé, et puis il n'est pas satisfait de ses traitements, tout ça, et puis il l'accuse de vouloir simplement faire de l'argent. Et ça commence une journée un peu. Tu sais, c'est comme une espèce de descente vers l'enfer pour ce chirurgien-là. C'est un film, notamment, qui est esthétiquement, c'est un parti pris. C'est comme, en gros, c'est une dizaine de plans-séquences qui constituent le film.
Six plans-séquences. Six plans-séquences truqués, là. Un peu comme, tu sais, Robert Morin en parlait après, puis tu sais, il comparait aux techniques de Birdman pour rattacher le film, là. Mais c'est, au total, c'est l'illusion de six plans-séquences, là.
OK. Mm-hmm. Donc, quand même, six plans-séquences, un film d'environ 1h30, je pense.
1h40.
Ouais, 1h30. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du dernier Robert Morin?
Écoute, moi, j'ai vraiment aimé ça, là. Moi, ça a été... ça a tellement bien clôturé mon festival, ce dernier que j'ai vu. Je savais pas trop à quoi m'attendre, puis en plus qu'au début il donnait le référent du cinéma expressionniste, ben même qu'il ouvre avec une quote de Fritz Lang ou Murnau, je pense que c'est Murnau, hein.
Je m'en rappelle plus,
Il ouvre avec une quote de Murnau, ben c'est ça, c'est par rapport à Nosferatu, là. Puis en fait c'est je me demandais en fait où il s'en allait avec ça, parce que des bandes annonces je voyais pas du tout le cinéma expressionniste, mais finalement c'est vraiment il y a un gros trip esthétique, là. Robert Morin, moi, ce que je trouve malade, c'est qu'à chaque film, il se renouvelle, puis il se donne des challenges. Tu sais, il y a plus besoin, là, de se donner de challenges de même, mais il continue à casser son beat de cinéma traditionnel. Tu sais, il fait jamais de quoi de traditionnel. Il faut tout le temps qu'il essaie quelque chose narrativement, esthétiquement. Fait que là, de se donner la contrainte des plans séquences, mais de mêler ça en plus avec du cinéma expressionniste, les jeux d'éclairage qui sont vraiment magnifiques. Performance de Christian Bégin qui est comme qui est hallucinante, là. C'est vraiment, tu sais, c'est un personnage un peu à la Jack Nicholson dans Shining, là, dans un sens. C'est un genre de Shining moderne, là, parce que c'est vraiment le gars ben ben normal qui finalement commence à devenir crazy dans sa tête, là. C'est problème d'infiltration, il y a un problème d'infiltration chez lui, mais c'est la métaphore ben ben simple de dans sa tête, c'est le une petite fissure qui s'élargit puis qui devient comme une mère dans sa tête, là. Donc toute la folie s'empare de lui pendant cette journée-là. Il y a quelques moments là, que je trouvais que le contexte du plan séquence était peut-être un peu... Il était moins en symbiose avec la trame narrative, là, où il y a des petits creux, là, où là, c'est comme... Parce que quand tu fais un plan séquence, ben il faut que tu aies... Le gars, il passe du point A au point B, tu sais. En général, je trouve qu'il a bien couvert le temps, là. Il a vraiment trouvé une belle façon de ramasser ça. C'est peut-être comme la deuxième vignette, le deuxième plan séquence, où je trouvais qu'il y avait des longueurs, là, quand il arrive chez lui, puis là, t'as toute une scène où il s'habille, là, puis là, c'est un peu long, mais ça fait comme... Vu qu'il y avait la contrainte du plan séquence, il n'y avait comme pas le choix. Mais sinon, je trouve qu'au niveau éclairage, au niveau sonore aussi, beaucoup, le design sonore est hallucinant, là. La folie est illustrée avec beaucoup de bruit de la ville, fait que t'entends toujours les avions qui passent, la déneigeuse à l'extérieur qui fait « dui-dui-dui-dui-dui-dui », t'as tous ces sons-là qui deviennent de plus en plus chaotiques à travers le film, qui font partie de la folie du personnage. Pour moi, j'ai vraiment trippé, là. J'ai hâte de voir en fait ce que tu vas en dire, parce que je trouvais ça bien intéressant. Puis au niveau du plan séquence, je peux dire aussi, en fait, c'est plate de pas avoir. Tu sais, je l'avais déjà apprécié, mais Robert Morin a dit quelque chose après qui m'a fait encore plus triper sur le film. Mais je me demandais justement pourquoi il avait décidé de faire ça en plan séquence. La question a été posée pendant le Q&A. Puis il parle en fait. Il est comme, ouais, c'est un peu un télo, là, ce que je vais dire, là, avec son franc parler de Robert Morin. Là. Puis là, il dit. Mais tu sais, le cinéma expressionniste, c'est ultra hermétique. Les personnages sont emprisonnés dans des cadres qui sont ultra calculés. Ils sont emprisonnés toujours dans leur shot avec les éclairages qui sont vraiment prononcés sur les personnages. Puis lui a dit, j'ai décidé de faire comme si Murnau ou Fritz Lang avaient les outils aujourd'hui. Ça serait quoi l'autre façon d'emprisonner les personnages? Puis ça serait avec le temps. Puis la seule façon d'emprisonner un personnage dans le temps, c'est de faire un plan séquence. Parce que comme ça, t'as aucun échappatoire au montage. Le temps devient une prison pour le personnage. Puis là, j'étais comme, oh shit, ça c'est next level, là, pour un film, tu sais, finalement, c'est un trip esthétique en même temps, mais il y avait quand même une bonne justification à ce niveau-là de ces plans séquences, là. Mais c'est ça, là, moi j'ai vraiment aimé ça. Il y a aussi une scène aussi qui fait ça. Ariel aussi a posé la question, là. Ariel qui était le programmateur, qui a posé la question dans le Q&A, mais c'est Christian Bégin, puis il y a une scène de cuisine, là, où genre Christian Bégin il fait de la cuisine minutieusement, puis il sent du vin, tu sais. Christian Bégin qui est tellement connu pour son show de cuisine. Puis Ariel lui a demandé c'était-tu une façon de déconstruire l'image publique de Christian, parce que. T'sais, il est représenté comme le gars sympathique qui fait ses recettes. Puis là, c'est un espèce de psychopathe, là, sociopathe là, dans le film. Puis en fait, Christian Bégin, c'était même pas le premier choix de Robert Morin pour le casting. Puis c'est rendu sur le plateau que Christian Bégin, c'est comme fait, je vais-tu vraiment faire cette scène-là là, que je fais à la télé depuis genre, depuis je sais pas combien d'années, là, tu sais. Fait qu'il y a comme vraiment des belles scènes comme ça où finalement le personnage public commence à faire partie de tout ça, tu sais, c'est un gars sympathique, mais que son personnage est tout déconstruit à travers le film. Là. Fait que ça, c'était bien intéressant. Mais ouais, moi, j'ai vraiment trippé. Là. Mais c'est encore une fois, là, je pense que les films de la section caméra Lucida, c'est des gros gambles, puis c'est ça marche ou ça marche pas avec le public. Là. Fait que toi, Paul, je vais te passer la balle. Là.
Ben, écoute, je me sens mal parce que. C'est pas comme si...
C'est tout le temps la même chose avec Robert Morin. C'est tout le temps, la même affaire avec Robert Morin.
Oui, mais... C'est tout le temps la même affaire. Mais c'est parce que je continue à aller voir ses films. Pourquoi? Parce que je le respecte fondamentalement, Robert Morin. Ouais. Je reconnais sa carrière et il m'excite encore. T'sais, j'ai encore le goût de voir ses films. Contrairement à, mettons... Puis même des fois, les grands cinéastes, je perds simplement l'intérêt, tu sais. Puis pour rester dans le Québec, mettons, Denis Arcand avec Le règne de la beauté, il m'a perdu, tu sais. Fait que là, il a annoncé son prochain, là, avec le titre très subtil, Le triomphe de l'argent, là. Donc, tu sais, je suis pas sûr que j'ai hâte de voir son prochain film, là. Ou simplement des cinéastes que, tu sais, mettons, j'écoute un film, j'aime pas trop ça, ben, j'écouterai pas les prochains, puis tu sais, j'attendrai d'avoir des échos. Mais Robert Morin... Je reste fidèle parce que oui, c'est vrai que sur papier, ses concepts, il se donne des challenges, comme tu disais, Rémi, il se met au défi. Puis tu sens, je pense que fondamentalement aussi, tu sens son amour du cinéma. Tu sens le gamin qui trippe, qui est toujours content d'amener son film dans les festivals, puis de proposer de nouvelles choses. Puis pour moi, c'est ça qui est à la base. C'est vraiment au-delà de l'intellectuel qui essaie de ne pas être, au-delà peut-être du poète de rue avec ses dialogues des fois très stylisés. Moi, je pense que c'est. Quelqu'un qui aime la forme du cinéma puis qui la questionne. Fait que, ne serait-ce que pour ça, je suis content que ce film existe et je suis content aussi qu'il trouve une sortie en salle, que les gens vont pouvoir aller le voir. Mais ce serait être malhonnête de dire que j'ai aimé le film, tu sais. Et notamment, parce que pour moi, son meilleur film, c'est Yes, Sir, Madame et de loin. Je pense que c'est un des meilleurs films québécois. Là. C'est vraiment un film qui a marqué un peu notre petite cinématographie. Pourquoi, notamment, une des forces de ce film-là, c'est que c'était le travail de l'ellipse, en fait, puis comment la forme du film répondait au récit, et puis comment, justement, le spectateur découvrait au fur et à mesure ce qui se passait, puis on était toujours dans une espèce de puzzle qu'on assemblait en même temps que le personnage principal, lui, essaie de retrouver ses souvenirs. T'sais. Puis, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, là, Yassou Madame. Puis, c'est fou comment ce film-là, il y a comme pas de gras. Là, c'est un film qui dure peut-être 1h15. Je pense que c'est comme 77 minutes. Puis, tu écoutes ça, puis c'est comme. Il y a un punch émotionnel, ben pas un punch, mais tu sais, le film a un impact émotionnel.
Ouais, tout est là, là, ouais, ouais.
Tout est là. Et justement, c'est qu'il travaille l'ellipse, il travaille, tu sais, t'es tout le temps désorienté. Tandis que là, effectivement, de se dire, je fais un film en plan-séquence, moi, je trouve qu'en 2017, des films en plan-séquence, genre, je vois vraiment très peu d'intérêt. Ensuite, c'est sûr que ça dépend si c'est de film en film, tu sais, je veux dire, c'est pas une règle que les plans-séquences, c'est bon ou c'est mal, tu sais. Mais, comme tu disais, Rémi, c'est que des fois, ben, il est comme victime de son concept parce qu'il est comme, ben, tu sais, je peux pas couper, tu sais. Puis, honnêtement, ouais,
mais... Mais je pense, moi, il y a quelques moments, mais pour vrai, j'ai pas trouvé ça. Je trouvais pas que ça laguait, là, pas en tout. Question de perspective, I guess, là, ouais. Mais moi, j'ai trouvé que ses plans séquences étaient très payants par moments, là, où c'était vraiment très, très cool, là.
C'est parce que je vois pas ce que ce film-là, en plan séquence, a de plus que si le film était monté, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est des moments où, mettons, il sort de sa voiture, puis là, ça fait des espèces de mouvements de caméra bizarres parce qu'il faut qu'il fasse une espèce de transition digitale. Ou, mettons, il vit dans une espèce d'immense maison de riche. Puis souvent, il passe d'un escalier à l'autre, ou il descend les marches, puis tu sais. Puis là, tu sens que la caméra doit se tasser, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est comme... Je sais pas ce que ça m'apporte vraiment de le suivre en temps réel, monter les escaliers. Outre que, évidemment, c'est que tu l'accompagnes vraiment dans sa folie, tu peux l'avoir comme en temps direct sur son visage, tout ça.
Ouais, ben c'est ça le point.
Fait que ça, je peux comprendre, sauf que moi, je trouve pas que Christian Bégin a l'étoffe pour porter un film comme ça, parce qu'il est vraiment toutes les scènes, puis plus souvent qu'autrement, la caméra est dans son visage. Puis encore là, je me disais, c'est un des rares films de Fantasia que j'aurais peut-être préféré voir en screener, tu sais. Parce que je trouve pas que le film est beau. Je trouve qu'il y a trop de gros plans. On dirait pour moi, c'est plus un film de télé. Parce que justement, la caméra est très rapprochée. Puis c'est pas une. C'est des caméras assez cheap. Là, je veux dire, là, tu sens. Puis c'est tourné en hiver dans des conditions difficiles. C'était avec équipe réduite, petit budget, tout ça. Donc, j'avais pas l'impression que le film gagnait à être projeté sur grand écran, à part tout le côté extra, c'est-à-dire la foule. Les réactions, l'électricité peut-être, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est un film que j'aurais préféré voir sur petit écran.
Ouais, je suis d'accord là-dessus, là. Je pense pas que c'est un film qui est tant payant au cinéma, mais tu sais, ouais. Ça, je suis assez d'accord, là. C'est un film qui... Puis Robert Morin, c'est souvent ça aussi, là. C'est pas des films spectaculaires, là, tu sais.
Non, c'est ça.
Tu prends des papas à la chasse au Lagopède ou Journal d'un coopérant qui est écrit pour le web de base, là, tu sais. C'est pas un gars qui est sur le côté esthétique, puis...
Non, c'est ça. Puis même il y a une certaine revendication, en fait, que lui, il a mieux exploré la laideur humaine. Mais tu sais, ouais. Ça, je peux comprendre. Puis c'est vraiment intéressant de proposer des personnages, des fois, un peu repoussants. Pis ça fait du bien, parce que dans le fond, il y a tellement de gens qui s'intéressent à, je sais pas moi, des couples en amour qui ont à peu près pas de fautes, ou sinon, tu sais, les faiblesses, c'est extérieur à eux, ou tu sais, des héros sans faille. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui explore la laideur humaine, là. Avec autant de lucidité aussi, parce que c'est pas seulement des clichés, tu sais. Fait que ça, c'est un bon point pour lui, mais c'est ça, c'est que ça donne... Puis tu sais, il y a façon de faire des films aussi sur des gens laids, mais de les faire beaux. Mais bon, en tout cas, ça, puis encore là, c'est débattable, parce qu'est-ce que tu veux faire un beau film de ce récit-là? Ça. Pas nécessairement. Mais tu vois, moi, c'est le plan d'ouverture qui m'a le plus marqué. Et puis, je trouve qu'il est le plus réussi.
Ouais, ça, je suis d'accord. L'ouverture est spectaculaire. Ça pourrait être un court-métrage en soi, en fait.
Ouais,
tu pourrais couper à la fin du premier truc, puis t'envoies ça en festival, puis c'est genre un court-métrage insane, là. Tu sais, c'est genre deux personnages dans une pièce, puis c'est malade, là. Puis la composition de l'espace, le travail de lumière, c'est tellement, tellement impressionnant.
Ouais. Puis c'est ça, puis en gros, c'est ça, c'est ce que je disais tantôt, en fait, c'est le client, dans le fond, qui est un grand brûlé. Qu'au début, il a comme tous ses bandages sur la tête. Là. Il fait un peu, justement, tu sais, monstre momie, un peu. Là.
Ben, c'est fantôme de l'opéra, là.
C'est ça, tu sais, dans toutes ces références-là, un peu. Puis, c'est ça, la caméra super patiente, puis c'est la longue discussion, un peu, sur la morale et l'éthique d'un chirurgien, puis les accusations, tout ça. Puis, tu sais, des fois, la caméra vient super proche, puis à mesure qu'il enlève le bandage, tu peux voir, comme, toutes ses cicatrices, tout ça. Et le fait que tu tournes pas le regard, c'est que ça apporte quelque chose de super fort. Puis justement, je trouvais que, premier plan, j'étais vraiment dedans, puis j'étais comme, j'ai hâte de voir où ça s'en va. Puis c'est vraiment tout le reste que j'ai trouvé qui était pas à la hauteur, peut-être, du premier plan. Mais ouais, pour moi, je peux pas vraiment recommander ce film-là au cinéma, quand il y a tellement d'œuvres qui valent la peine. Mais en même temps, c'est un film québécois, et c'est quelqu'un qui fait des trucs originaux, quelqu'un qui a une démarche cohérente, puis fait pourquoi pas, tu sais, mais t'sais, pour moi c'est une demi-recommandation, tu sais, c'est savoir dans quoi on s'embarque, puis si on a le goût de, t'sais, si vous êtes fan de Robert Morin puis vous avez vu ses autres films, c'est sûr que vous allez le voir de toute façon, donc que j'en parle en bien ou en mal, ça change pas grand chose. Et surtout, ça, on parlait de Ghost Story qui risque de pas être à l'affiche longtemps, mais ça, c'est encore pire. Là. On sait que les films québécois, si t'as pas des grosses vedettes ou du gros marketing, ça reste pas longtemps à l'affiche. Donc, j'ai pas l'impression que ce film-là va vraiment être là longtemps. Donc, allez-y dès la semaine d'ouverture si vous tenez à le voir en salle.
Donc, je vais dire que c'est une recommandation, ouais. Mais sous certaines réserves, dans le sens que je suis très conscient que c'est pas un film pour tout le monde, puis que c'est pas un truc qui va faire triper la population complète du Québec là. Mais tu sais, pour un côté cinéma edgy, si t'essaies de chercher quelque chose, une formule vraiment différente là, je pense que c'est ça vaut le coup d'œil là, ça vaut la peine de l'essayer là, parce que même les films que j'ai pas aimés de Robert Morin, au final je trouvais ça intéressant, sa démarche en arrière, tu sais, je pense qu'un des moins bons là c'est 4 soldats ou son truc trois histoires d'Indiens là, tu sais, ces deux films là c'est pas vraiment des très bons films là, mais toute la démarche en arrière, à chaque fois je trouve ça vraiment intéressant, son processus de réflexion. Puis c'est un truc qui transparaît dans le film, puis qui est pas c'est pas il faut que tu parles à Robert Morin pour savoir qu'est-ce qu'il pensait. C'est assez évident quand tu regardes le film qu'est-ce qu'il a essayé de faire, puis quand il rate la shot, pas trop grave, parce que au moins il y a eu toute comme tu disais, pas la passion, puis l'amour du cinéma, puis le désir de faire quelque chose de nouveau là, puis ça c'est assez remarquable. Là. Mais moi j'ai beaucoup aimé ça. Fait que...
Mais j'aimerais quand même. En tout cas, j'aimerais ça qu'il. Parce qu'au moins, Les Quatre Soldats, c'était quand même une production qui avait une grosse équipe derrière. Puis pas que c'est nécessaire. Puis c'est pas que je mets l'un contre l'autre dans son cinéma. Parce qu'il y a sur Madame, c'est un tout petit film. Mais moi, justement, ces trois derniers films, là, Trois Soirs d'Indien, Paradis pour tous, puis celui-là. T'sais, c'est vraiment des films à mini-équipe. Là. T'as l'impression qu'ils font comme 4 sur le 7, puis that's it. Puis. Ouais, moi je trouve que c'est déficient, là, mais en tout cas. Reste que intellectuellement, c'est vraiment pas un cinéaste que ça soit sur ses lauriers, donc juste pour ça, c'est chapeau.
Oh yeah.
Donc voilà, alors ça fait pas mal notre conclusion du festival Fantasia.
Moi j'en ai vu quelques films dans Fantasia.
Ah oui, ben vas-y.
Mais j'en ai vu quelques-uns, là, parce que c'est ça, la première moitié du festival, là, j'étais en dehors de la ville, fait que j'ai pas physiquement pu m'y rendre. Mais j'y suis allé, puis j'ai. Je veux juste en accrocher un vite, là, en fait. Puis, parce que c'est un film avec lequel je suis un peu conflictuel. J'ai beaucoup aimé jusqu'à ce que la poudre aux yeux un petit peu, comment dire, s'effrite, là. Puis que tout à coup, en y repensant, je me dis, ouais, j'ai peut-être été un peu roulé dans la farine avec ce film-là. c'est Patty Cakes, en fait, un film... Non, mais qui était à Sundance et qui était à Cannes, ce qui était d'ailleurs un double bill très, très rare. Hein. Les films qui font les deux, on le sait, c'est assez exceptionnel et assez remarquable. C'est quoi Patty Cakes? En fait, on suit vraiment les tribulations d'une jeune femme, là, début vingtaine, qui est un peu à un point mort là, dans sa vie. T'sais, elle sert dans un genre de bar miteux, tout ça, puis elle a la vocation, du moins le rêve de devenir une grande rappeuse, là, t'sais, un peu à coup de bling-bling, puis de genre, je veux, t'sais, on veut le succès un petit peu instantané, t'sais. Mais on a comme l'impression qu'elle est vraiment tout croche jusqu'à ce qu'en fait, il y a une scène assez tôt dans le film. Parce que le film commence littéralement par genre un rêve, puis elle se réveille le matin. Là. Puis là, j'étais comme, pour vrai, comme en 2017, really, un film de cadran. mais là, elle commence à freestyler devant... Non, mais elle commence à freestyler comme devant le miroir, puis... T'es comme, ah non, ok, il y a quand même une énergie. C'est vraiment une nouvelle façon de découvrir le matin du protagoniste. Là, t'sais, y a comme quelque chose de frais dans le plus gros cliché fatigué du cinéma, quasiment. Fait que j'étais intrigué, puis jusqu'à ce qu'il y ait des scènes où elle soit encore plus mise en valeur, et il y a comme un genre de rap battle assez tôt dans le film, puis putain, il y a du réel... Il y a de la grogne, là. Il y a quelque chose qui se passe. T'sais. Il y a une énergie, puis c'est assez contagieux. Puis le film prêche par cette énergie-là qui se soutient toute la durée du film. Puis l'histoire, donc, c'est ça. Là, elle fait des rencontres un peu... comment dire, inhabituel avec un genre de gars, il l'appelle le prince des ténèbres, là. C'est un gars qui fait de la musique là, profondément anticommerciale, là, qui s'autoproclame l'antéchrist et tout ça. Puis elle se ramasse un peu chez eux par un jeu de circonstances et elle fait des beats avec lui, puis finalement ils font un genre de mixtape, puis peut-être ou peut-être pas le succès s'en suivra. Fait que c'est ça, c'est une genre un petit peu d'une histoire de Cendrillon, mais avec des laissés pour compte, avec des personnages marginaux, tu sais, elle, ça serait quand même l'éléphant dans la pièce de dire qu'il y a aussi le rapport à, non mais le rapport à, au poids du personnage, puis littéralement elle se fait appeler, désolé, c'est une blague de mauvais goût, mais je la pull off pareil. Non mais t'sais, non mais pour vrai, c'est une grosse thématique du film.
Grosse thématique.
Alors que là, ça c'était pas prévu. Là, je suis condamné okay, à toutes les fois que je dis. Mais ça transcende ça quand même, vraiment beaucoup. Mais c'est parce que son estime de soi est quand même vraiment minée par un entourage qui est très hostile à son égard, par son apparence physique. Et le film, finalement, le personnage s'en vient qu'à être pris au sérieux par ses compétences. Puis ça, c'est très bien, c'est très beau, tu sais, que le film dépasse finalement ce côté-là. Mais se sert de ça. C'est comme si, au final, elle own, tu sais, elle en vient qu'à posséder peut-être ce que les gens autour d'elle, lui tape sur la tête un peu ou lui font miroiter que c'est un travers alors qu'au final elle réussit à en tirer, tu sais, de l'or finalement, puis elle utilise ça comme un puits pour son inspiration, puis ça c'est très inspirant et c'est très beau.
C'est un peu comme le gras du sujet dans le fond là.
Ah, Rémi, non, ouais. Ça marche plus. Bon, puis fait que ce qui se passe avec tout ça, donc c'est le film est exubérant. C'est une force et ça peut un petit peu devenir une faiblesse. Je pense notamment à, il y a une finale où tous les pions, là, tu sais, comme à 20 minutes de la fin du film, tout va mal, là, puis là, tu le sais, là, que le bon scénariste 101 va tout rapiécier les morceaux, les pots cassés pour, tu sais, que tout finalement finisse bien. Et le film, bon, c'est pas un spoiler, parce que je vous dis pas évidemment qu'est-ce qui se passe, mais le film le fait, là, tu sais, puis c'est pas, on s'y attend. Mais d'une façon un peu grotesque, tu sais, finalement. Mais en même temps, le film prêche par son exubérance et brille par son exubérance. Donc, il y a comme une partie de moi qui était comme, qui lui pardonnait tous ses travers. Le film finit, t'as un sourire aux lèvres. Il y a des moments vraiment franchement drôles. C'est une comédie, on s'y méprend pas. Il y a de l'énergie, de la musique, il y a des beats. Le réalisateur, d'ailleurs, fait les beats aussi. Puis on le sent qu'il y a un genre d'amour de la musique qui vient d'une place très, très, très authentique. Donc ça, à tous les niveaux, ça fonctionne bien. Mais là, on dirait que tu reviens chez toi, puis là, tu penses au film, puis t'es comme... Ouais, c'était des gros traits, hein? Je savais que t'allais dire ça. Là, je peux plus rien dire, je suis condamné. Non, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'était comme... Ouais, on a vraiment tordu le bras
au scénario. On a raté l'âge, là.
Fait que c'était pas de cake. J'arrête. Drop the mic. Non, mais, mais vraiment de l'énergie. Et le film sort en salle. Le film a fait quand même sensation pour des raisons qui sont évidentes. Je pense que les qualités du film sont évidentes. Tu sais, on s'amuse avec un film comme ça. Tu sais, Chic-toi, Paul, par exemple, t'avais aimé Popstar, là. Tu sais, c'est quand même pas vraiment le même film, mais je le verrais bien comme dans une genre de soirée de film à partager entre amis. Tu sais, on le sait que ça, c'est pas un film transcendant, que c'est pas un film incroyable, mais je pense que ses qualités sont évidentes, puis il y a un plaisir contagieux, clairement, avec le film. Puis ouais, Patty Cake, c'est sort en salle à la fin du mois d'août.
Non, mais tu me le vends bien. Mais t'es-tu après dire que Popstar, c'est pas transcendant?
Bon. Ben, tu sais. OK, écoute. Fait que, ouais, ben, disons, moi, ça serait mon fantasia en un film, là. J'en ai vu d'autres, comme je disais, mais je pense qu'on peut... Passons, procédons.
Est-ce qu'on a nommé le réalisateur? Excuse.
Ouais, Jeremy Jasper, il s'appelle. Okay. C'est son premier long-métrage, là, donc okay. C'est vraiment son bébé.
Cool.
Je peux-tu juste faire un petit call, un petit shout-out? Parce que là, il y a un de nos followers, Michel Patry, on le salue, qui voulait que je voie Dunkirk, puis que je donne mon avis, mais c'est pas encore fait à cause de Fantasia et tout le reste. Là.
Ah bon?
Mais je me fais un devoir. Anyway, je veux vraiment le voir au cinéma, là. Je veux pas checker ça sur mon laptop.
Non,
là.
Non, c'est ça.
Fait que je vais aller voir cette semaine, puis je vais revenir au prochain podcast. Je vais être un petit peu late là, sur la game, là, mais je vais avoir ma critique de Dunkirk un mois plus tard. Là, fait que,
bon.
Je trouvais ça important de le mentionner.
Super, donc on salue toujours nos fans. Hein. N'hésitez pas à nous écrire quand vous avez des demandes ou des suggestions. Pas qu'on va tous toujours les honorer, mais si ça donne bien, on est toujours content en fait de pouvoir vous répondre directement. Et c'est ça, nous on va quitter un peu plus tôt cette semaine. On va essayer de faire un épisode bientôt en fait. Y a notamment quelques films qu'on voulait absolument parler, qu'on va peut-être parler au prochain podcast, de Big Sick notamment et de Dark Tower. Peut-être
en une phrase de Big Sick, à date, c'est mon film de l'année. C'est magnifique, c'est génial, c'est vraiment beau, c'est drôle, ça a un peu tout, ça a beaucoup d'humanité. On s'en reparle ou pas, là, mais juste si on s'en reparle pas, prenez-le pour du cash, là, c'est un magnifique film, allez voir ça.
Ouais. Ben, de mon côté, de Dark Tower, c'est un film que j'ai vu cette année. donc,
les reviews sont pas très nice en date. Hein? Il est décalissé, ce film-là. Là.
Ouais. Mais honnêtement, ok, je vais juste dire une seule chose. Si jamais vous aimez la lecture, vous aimez ça, les univers fantastiques, tout ça, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça, et que vous avez juste entendu parler que le film est pourri, donnez quand même une chance au livre. C'est vraiment une saga qui a ses qualités et ses défauts, mais qui vaut vraiment la peine. Donc voilà. Alors, on va se quitter sur la bande-annonce justement du problème d'infiltration de Robert Morin qui sort en salle à la fin août. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau et j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Bonjour, Monsieur Turcotte. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Il fallait que je passe à l'urgence. De me dire qu'il faudrait que je me défigure moi-même pour comprendre ce que vous vivez, c'est ça?
On y va. On y va.
T'as failli te faire tuer ce matin. Aujourd'hui, t'as une poursuite contre toi. Puis t'es là à halluciner.
Tu es sous contrôle?
T'es sûr?
Oh oui, je t'assure.
Ça me fait plus peur que mon fou à l'hôpital, parce que ça se passe ici, chez nous, dans ma maison!
Louis, t'es-tu là?